appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble durant près de 50 minutes et comme tous les matins, évidemment, l'antenne vous appartient. Dans une vingtaine de minutes, nous lancerons notre débat du jour et nous parlerons du très probable report de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous sommes à 26 jours du scrutin et la liste électorale provisoire n'a toujours pas été publiée alors que le code électoral est très clair. Il prévoit sa publication au moins 30 jours avant le premier tour. Des retards qui font évidemment dire à la classe politique ivoirienne que les élections seront une fois de plus repoussées. Alors faut-il s'en inquiéter? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne parvient-elle pas à respecter le calendrier électoral? Je vous rappelle tout de même que cela fait maintenant 4 ans que les électeurs ivoiriens attendent cette élection présidentielle. Vos commentaires, vos témoignages évidemment nous intéressent. Vous êtes nombreux à souhaiter vous exprimer sur ce probable report. Un seul numéro de téléphone, le 01 53 92 64 40 33 1 53 92 64 40 si vous nous appelez de l'étranger. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction, des questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité, plusieurs questions sur la situation en Afghanistan. Bonjour Salia.
Bonjour.
Vous nous appelez de Bounounou. Alors Bounounou, c'est au Burkina Faso, c'est à 150 km au sud de Ouagadougou, la capitale. Alors vous avez plusieurs questions concernant évidemment le processus électoral en Afghanistan.
Oui, Juan. Effectivement, j'ai deux questions concernant les élections en Afghanistan. La première question... Je voulais savoir pourquoi le président afghan a refusé de relever le président de la commission électorale de ses fonctions.
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que le limogeage du président de la commission électorale, c'était l'une des exigences fixées par l'opposant Abdullah Abdullah pour ne pas boycotter le second tour de l'élection présidentielle. On a vu que, évidemment, Karzai n'a pas cédé aux menaces de son rival. Sophie Malibo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Sophie, c'est vrai qu'Hamid Karzai a opposé une fin de non-recevoir à cette exigence, mais à toutes les exigences imposées par Abdullah Abdullah. Pourquoi ne pas limoger et ne pas avoir limogé le président de cette commission?
Alors, pour lui, c'était vraiment absolument infaisable pour plusieurs raisons. Limoger le président de la commission électorale, déjà, il fallait qu'il ait commis une faute. Or, malgré la résistance opposée à la correction des résultats, vous savez, il y a eu d'abord un rapport par la commission des plaintes, qui est un autre organe que la commission électorale indépendante, qui a donc décelé des fraudes massives avantageant principalement le président sortant. Et la commission électorale, c'est ce que lui reprochait donc l'opposant Abdullah Abdullah, la commission électorale a vraiment tardé à prendre en compte ces fraudes et a publié donc l'inéluctable, l'annonce de la nécessité de procéder à un second tour. Mais au bout du compte, la commission électorale a bel et bien annoncé la tenue d'un second tour. Donc on ne peut pas lui reprocher cela. Et par ailleurs, si on réfléchit bien, si Hamid Karzai avait limogé le président de la commission électorale indépendante...
Qu'il a lui-même nommé d'ailleurs.
Non seulement il l'a lui-même nommé, mais pire que ça, le reproche qui est fait à ce... À ce président de la commission électorale, c'est d'avoir, d'avoir succombé aux pressions faites sur lui par le président Karzai. Donc, ça voulait dire que Karzai s'auto-désignait à l'origine de la faute. Donc, le fait pour Abdullah Abdullah de poser ces conditions-là, c'était vraiment mettre la barre très très haut. Même une des autres conditions qui était posée, qui était par exemple la fermeture de ce qu'on appelait les bureaux fantômes, oui. À savoir les bureaux où en fait les électeurs ne pouvaient pas se présenter pour des conditions...
C'est des bureaux qui n'existaient que sur le papier. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, selon ce que j'ai compris, c'est plutôt ce sont des bureaux qui existaient, mais dans lesquels les électeurs ne pouvaient pas se rendre en raison des conditions de sécurité vraiment un danger beaucoup trop élevé dans ces zones qui sont surtout des zones aux mains des talibans dans le sud du pays, avec un électorat pashtoun, donc favorable à Karzai. Donc tout cela, c'était la porte ouverte aux fraudes. Mais fermer ces bureaux, ça aurait voulu dire ne pas accorder le même droit de vote à tous les électeurs afghans. Ce serait donc reconnaître d'emblée l'illégitimité de ce scrutin, le fait qu'on ouvre les bureaux dans certaines zones et que d'autres citoyens afghans, eux, soient privés de facto du droit de vote. Donc c'était des conditions que le président Karzai ne pouvait pas manifestement remplir.
Ouais, d'où la décision d'Abdullah Abdullah de boycotter donc le second tour. La suite, nous la connaissons. Saïla, vous aviez une autre question?
Oui, j'ai une deuxième question, Ouran. Mm-hmm. La deuxième question, je voudrais savoir pourquoi le docteur Abdullah Abdullah n'a pas appelé ses militants à boycotter le second tour, alors que lui-même a déclaré qu'il se retire de ce second tour. Je trouve cela contradictoire.
Alors effectivement, il jette l'éponge et pour autant il n'appelle pas ses électeurs, en tout cas ses partisans, à boycotter le second tour. Comment expliquer cette stratégie ?
Oui, c'est de la stratégie. Vous avez tout à fait raison, c'est effectivement contradictoire. On observe en même temps que, en disant qu'il n'appelle pas ses partisans à boycotter le scrutin, il appelle aussi au calme. Il a mis en garde ses partisans, leur demandant de ne pas descendre dans la rue.
De ne pas manifester.
Voilà. Donc là, on peut clairement voir que Abdullah est en train de préparer la suite. Quelle est-elle au jour d'aujourd'hui? C'est très difficile à dire. Est-ce qu'il y a encore possibilité de tractation avec le président Karzai pour formation éventuelle d'un gouvernement du national? C'est pas évident. Est-ce que Abdullah s'apprête maintenant à vivre ses 4 années ou ses 5 années à venir en tant qu'opposant et à constituer une opposition solide de manière à rafler la mise lors du prochain tour? C'est difficile
à
dire.
Rester impliqué dans la vie publique et politique de son pays.
Absolument. Donc, va-t-il participer au prochain gouvernement ? C'est pour l'instant difficile à dire. Il faut dire quand même qu'il y a des pressions internationales dans ce sens, que Abdullah, à qui on ne peut pas reprocher de ne pas participer à ce second tour, parce qu'on sait très bien effectivement qu'il était très peu réalisable, qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité logistique de l'organiser dans des conditions correctes. Donc, il ne peut pas. Karzai a été félicité, mais Abdullah n'a pas été critiqué et même par certains félicité pour son attitude. Il faut savoir aussi qu'il va y avoir des législatives qui vont venir après les présidentielles, théoriquement, si l'état de sécurité du pays le permet. Et donc, Abdullah a peut-être une revanche à prendre plus tard.
Salia, est-ce qu'on a répondu à vos deux questions ?
Ah oui, c'est l'État, oui.
Alors là, on a un message, ça doit être l'opérateur téléphonique qui nous fait des siennes. Mais je pense qu'Abdullah a dû entendre donc vos explications. Sophie, reste avec nous. Eric nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Eric.
Bonjour Juan.
Et bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs de RSE.
Nous vous écoutons.
Oui Juan, nous savons que le second tour de la présidentielle en Afghanistan est annulé par la commission électorale indépendante. Et cette commission a déclaré de facto le président Karzai vainqueur du scrutin. Moi, j'ai deux questions à poser à ce sujet. Mmh. Premièrement, je voudrais savoir si la légitimité du président afghan ne va pas souffrir et est-ce que le déroulement de ce scrutin présidentiel n'embarrasse pas un petit peu les Américains qui le voulaient libre, transparent et crédible.
Alors, bonne question sur la légitimité d'Hamid Karzai. Sophie Malibo, que peut-on dire ce matin ?
C'est extrêmement problématique. Mmh. Effectivement, le président Karzai est un président mal élu. Mmh. Tout le monde le sait, le taux de participation n'était pas très élevé. Les fraudes ont été massives et le second tour n'a pu se tenir. C'est pour ça que ce matin, le président Karzai déclare même que lui, finalement, il était favorable au second tour. Même ces déclarations-là ne sont absolument pas crédibles, étant donné que dès le lendemain du scrutin, son équipe criait victoire et estimait que la victoire était acquise dès le premier tour. Et donc, ce gouvernement va devoir donner des gages. Il est sous la pression internationale. D'où, aujourd'hui, les déclarations. Nous allons lutter contre la corruption. Et puis, la main tendue aux talibans, qui est la stratégie de Karzai. Il veut être un petit peu l'homme indispensable pour essayer de ramener les talibans dans le giron politique. Ce gouvernement va avoir du mal à opérer, surtout si la fracture continue de s'élargir vis-à-vis de Abdullah et si les pressions, les tractations ne permettent pas à Abdullah finalement de rejoindre l'équipe d'une certaine façon. À ce moment-là, le président Karzai serait en butte à deux oppositions, celle des talibans d'un côté, extrêmement violente, et celle des partisans de Abdullah qui peuvent devenir eux-mêmes très violents. Ce sont les Tadjiks, les populations du Nord qui elles-mêmes ont été appelées au calme, mais on le sait, peuvent très bien prendre les armes.
Les États-Unis souhaitaient un scrutin crédible, transparent, irréprochable. C'est un échec finalement pour la Maison-Blanche.
Oui, ça a été un fiasco. C'est un échec qui reflète totalement l'échec de la stratégie pratiquée jusqu'à présent. Et on peut dire que l'actuel locataire de la Maison-Blanche ne le nie pas dans, depuis son arrivée au pouvoir, il explique qu'il faut revoir cette stratégie et on attend de savoir exactement qu'est-ce qu'il entend par là, comment est-ce qu'il va remédier à la situation. Envoi de troupes supplémentaires, il l'a dit dès le début, la question ne sera pas résolue de toute façon simplement sur le plan militaire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire et c'est pour ça qu'en même temps que les félicitations, il y a eu des pressions très fortes exercées sur le président Karzai et l'administration.
En tout cas, les États-Unis et tous leurs alliés ont félicité dès hier le président Karzai pour son second mandat. À noter tout de même la réaction de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui félicite Hamid Karzai, tout en soulignant que des leçons devraient être tirées de ce processus électoral. À suivre donc. Sophie Malibo, merci beaucoup. Eric, on a répondu à vos questions.
Oui, merci beaucoup, je suis satisfait.
Eh bien, bonne journée à Douala, au Cameroun. Nous repassons au standard, au 01 53 92 64 40. Toutes vos questions à la rédaction. Patrick est avec nous. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan, j'appelle d'Abidjan, Koumassi, cité Douala.
Très bien, eh bien, soyez le bienvenu et merci de nous écouter en Côte d'Ivoire. Vous avez des questions concernant le bouclier antimissile américain en Europe centrale.
Oui, exactement, Juan. Il n'y a pas longtemps, le président Barack Obama avait annoncé l'annulation du programme bouclier antimissile en Pologne. Cependant, le vice-président Joe Biden a annoncé récemment l'installation d'un bouclier antimissile en République tchèque. Donc, mes questions sont les suivantes.
Oui.
Pourquoi de nouveau ce choix? Et que prévoit ce projet? Et la dernière question, quelle a été la réaction des Russes et les conséquences que cela pourrait engendrer dans l'avenir?
Alors, ne raccrochez pas. Sylvain Biville vient de nous rejoindre. Bonjour Sylvain.
Bonjour Juan, bonjour Patrick.
Alors effectivement, Patrick a raison de s'interroger. On se souvient tous qu'en septembre dernier, Barack Obama annonçait l'abandon du bouclier antimissile américain en Europe centrale, au grand soulagement évidemment de la Russie, qui percevait ce bouclier comme une menace contre sa sécurité. Et puis là, il y a quelques jours, alors on a appris, simples citoyens, que Washington avait de nouveau un projet d'installer un bouclier antimissile en Europe centrale.
En fait, ça avait été annoncé dès le départ, mais c'est vrai qu'on avait eu tendance à l'oublier. Tellement cette annonce sur l'abandon du bouclier antimissile version Bush était spectaculaire et symbolique d'un véritable changement stratégique aux États-Unis. On se souvient surtout à l'époque effectivement de la joie à Moscou de voir ce projet abandonné et puis aussi du désarroi en Europe centrale, notamment en Pologne et en République tchèque qui devaient accueillir le système version Bush. On s'est tellement focalisé là-dessus qu'on avait oublié effectivement que les États-Unis n'avaient pas totalement renoncé à un système antimissile, mais qu'il y avait derrière cet abandon du projet Bush un nouveau projet. Et c'est donc le service après-vente de ce nouveau projet que Joe Biden est allé faire il y a 10 jours lors de cette tournée en Europe centrale, notamment à Varsovie et à Prague. Il est allé en quelque sorte cajoler des alliés modèles qui ont eu l'impression d'être un peu sacrifiés sur l'autel de la réconciliation russo-américaine.
Alors est-ce qu'il y a une différence entre le projet élaboré par l'administration Bush et ce nouveau projet de l'administration Obama?
Alors effectivement, c'est radicalement différent. Oublier les radars géants qui devaient être installés en République tchèque, oublier les 10 intercepteurs antimissiles qui devaient être installés en Pologne et qui visaient dans le projet Bush qui avait pour cible les missiles iraniens de longue portée, c'est pour ça que Moscou se sentait visé. Désormais, avec ce nouveau projet, ce projet révisé, on cible les missiles de courte et de moyenne portée. On a expliqué à Washington que c'était beaucoup plus adapté à la menace iranienne. Il y avait eu une réévaluation stratégique de la menace iranienne. On s'est rendu compte que les Iraniens n'étaient pas si avancés que ça dans leur projet de missiles de longue portée. Donc ça cible les missiles de courte et de moyenne portée. C'est aussi visiblement un programme qui sera plus rapidement opérationnel puisque les premières installations antimissiles seront en place dès 2011 contre 2018 pour le projet Bush. C'est aussi beaucoup moins coûteux. Les missiles vont être dans un premier temps basés en mer à bord de navires de guerre américains et puis dans un deuxième temps seulement on installera un système antimissile en Pologne et en République tchèque. Alors l'opération séduction de Joe Biden a semble-t-il réussi puisque la Pologne et la République tchèque ont dit oui à ce nouveau système. Les deux pays sont prêts à collaborer.
Et en quelques mots, la Russie a-t-elle réagi ou pas?
Alors à Moscou, on en est encore à savourer la victoire de septembre. Et c'est vrai qu'il y a eu assez peu de réactions à cette tournée de Joe Biden. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que on pourrait s'orienter vers une révision totale des relations entre la Russie et les États-Unis, puisque Robert Gates, le secrétaire à la défense des États-Unis, au moment où Joe Biden était en Europe de l'Est, est allé lui présenter le système antimissile à l'OTAN, mm-hmm. et il a dit, écoutez bien, que la Russie était la bienvenue pour rejoindre ce nouveau dispositif antimissile. Les États-Unis et la Russie essaient déjà d'obtenir un accord sur la réduction de leur arsenal nucléaire. Désormais, il y a une nouvelle perspective de coopération qui s'ouvre entre Moscou et Washington, une sorte de système commun pour protéger toute la planète contre de possibles attaques nucléaires, par exemple, de la part d'États voyous.
Donc, main dans la main, Moscou.
On n'en est pas encore là, Washington. Mais c'est vrai que ça ouvre des perspectives qui changent complètement la donne avec cette doctrine de la guerre froide, de l'équilibre de la terreur.
Patrick, est-ce que vous comprenez mieux les nouveaux enjeux?
Oui, merci Juan, je suis très très content.
Eh bien merci surtout à Sylvain Biville qui est venu vous répondre. Bonne journée à tous les deux, il nous reste encore 5 minutes, le temps d'accueillir Damien. Bonjour Damien.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous nous appelez de Bangui, vous êtes en Centrafrique et vous avez des questions concernant, on va dire, les déboires sportifs du Real Madrid.
Oui, je suis présent à Bangui et au quartier Sara.
Au quartier Sara de Bangui,
d'accord. Avant le début du championnat, c'est-à-dire la Liga espagnole, avec ses nouvelles recrues, tout le monde voyait le Real de Madrid en bon état. Mais à notre grande surprise, ce n'est pas ça. Avec ses derniers résultats pires, le 4-0 devant un club de 3e division, dont le budget honnête est équivalent au salaire d'un joueur du Real. Ouais. C'est pour cela que je voudrais savoir quelle est l'origine de cette crise.
Ouais, que se passe-t-il au Real Madrid? Pourquoi des joueurs qui sont extrêmement payés, on a tous en mémoire évidemment les 93 millions d'euros dépensés pour recruter Ronaldo, les 67 millions pour Kaka ou encore les 35 millions d'euros pour se procurer les services de Benzema, et bien malgré ses meilleurs joueurs, et bien le Real a perdu. C'est une défaite humiliante face à un club effectivement de 3e division, 4-0. Bonjour Pierre Firsion.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Que se passe-t-il au Real?
Alors que se passe-t-il au Real? Avant de tenter d'expliquer, de tenter de comprendre. Il faut peut-être remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Mmh. Damien a raison, c'est vrai que le club merengue a connu une passe difficile au mois d'octobre. 3 défaites, un match nul et une seule victoire au compteur. Une série de contre-performances étonnantes pour un club qui a dépensé cet été 250 millions d'euros sur le marché des transferts. Vous parliez du transfert de Cristiano Ronaldo, 93 millions d'euros, somme record. Alors la saison avait pourtant bien commencé pour le club madrilène qui avait enchaîné 7 victoires consécutives et puis tout d'un coup la machine s'est grippée. Il y a d'abord eu ce premier revers à Séville le 4 octobre, suivi de la défaite à domicile en Ligue des Champions face au Milan AC, un revers 3-2. Et puis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette claque reçue la semaine dernière en Coupe d'Espagne, une défaite 4-0 sur la pelouse d'Alcorcón, un club qui évolue en 3e division, dont parlait notre auditeur, Alcorcón, et qui présente un budget de 1,2 million d'euros, soit 400 fois moins que le budget du Real Madrid. C'est assez impressionnant.
Ouais. Alors comment expliquer justement cette série noire du Real, ce fiasco?
Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est l'absence depuis fin septembre de la star de cette équipe madrilène, Cristiano Ronaldo. Le joueur portugais est blessé à la cheville droite. Or, il est un des maillons essentiels du système de jeu madrilène. Avec un total de 9 buts, Cristiano Ronaldo est actuellement le meilleur buteur du club en championnat et en Ligue des Champions. Et c'est vrai que son absence se fait aujourd'hui cruellement ressentir. La deuxième raison, c'est la difficile adaptation de certaines recrues, comme l'Espagnol Xabi Alonso, le Brésilien Kaka, voire le Français Karim Benzema. Petit à petit, ces joueurs parviennent à trouver leur marque, ils commencent à s'intégrer dans le système de jeu madrilène, mais cela ne se fait pas en quelques semaines. Rappelons qu'à l'intersaison, le Real a recruté 9 nouveaux joueurs. Troisième raison, la méforme actuelle de certains cadres de l'équipe. On pense par exemple au gardien Iker Casillas, ou encore à Sergio Ramos. Enfin, quatrième et dernière raison, l'entraîneur Manuel Pellegrini n'est pas encore parvenu sans doute à trouver le bon système de jeu pour faire évoluer toutes ces stars ensemble. Cela, il devrait prendre du temps, mais quand vous êtes entraîneur du Real Madrid,
fallait vite.
Le temps, vous n'en avez pas, voilà, la pression.
Le temps coûte cher au Real.
Permanente et les résultats doivent être immédiats.
Oui, en tout cas, le Real Madrid a pris quelques couleurs samedi soir en s'imposant 2-0 face au club de Getafe, qui est un club de la banlieue de Madrid. On verra évidemment ce soir comment les madrilènes vont se comporter face à l'AC Milan. Rien n'est dit encore que les madrilènes s'imposeront.
Oui, c'est ce soir que tout va se jouer pour Manuel Pellegrini, l'entraîneur. Il joue sa tête ce soir, Manuel Pellegrini. Oui. Si le Real parvient à s'imposer, si le Real ne perd pas ce soir, il restera à la tête du Real Madrid, sinon il devra sans doute laisser sa place.
Merci beaucoup Pierre Firsion. Damien Abangui, on a répondu à vos questions?
Oui, c'est bien répondu. Je profite de l'occasion pour faire une dédicace aux jeunes centrafricains qui sont en formation en Côte d'Ivoire.
La dédicace est passée. On est obligé de rendre l'antenne pour le point complet sur l'actu et on se retrouve dans 3 minutes.